passé et l'avenir au secours du présent.
Le beau est toujours bizarre.
Non, je n'y crois pas.
Rien ne distingue les souvenirs des autres moments.
Le bizarre est souvent beau.
C'est cette bizarrerie qui le fait être particulièrement le beau.
Le beau bizarre.
Non, oui, pour moi, oui.
De Zineb Souleymane.
Les commentaires, Boris Charmat, salut Christophe Walikowski, ils font un petit passage de relais, c'est normal, c'est le moindre des choses. Mais il est déjà là, bonjour, merci, vous pouvez vous installer là s'il vous plaît. Bonjour Christophe Walikowski, vous pouvez prendre ce micro-là à votre droite. Merci d'avoir été avec nous, merci d'être avec nous ce matin alors que je crois le travail il a continué jusqu'à tard cette nuit à la cour d'honneur.
Jusqu'à l'aube,
merci vraiment. Vous présentez Elisabeth Costello, 7 leçons et 50 moraux d'après l'œuvre de J.M. Coetzee du 16 au 21 juillet à la Cour d'honneur. Un retour attendu au Festival d'Avignon, vous êtes un peu chez vous, on pourrait dire, non? Puisque depuis 2001, année de votre premier passage au Festival avec Hamlet, le public d'Avignon a pu suivre vos créations avec Angels in America en 2007, Apollonia en 2009 et Kabari Warsikowski en 2013. C'est un peu comme avec Boris Charmat qui vient de partir, des artistes qu'on aime beaucoup et qu'on est heureux de retrouver après 10 ans d'absence. Mais est-ce que vous êtes heureux de retrouver la cour d'honneur, Christophe Warsikowski?
Oui, c'est un lieu très particulier. Qui fait rêver, magique. Donc, voilà, quand on y revient, on dialogue, on a l'impression de dialoguer avec le monde entier.
Vous avez vos repères. C'est un joli terrain de jeu pour déployer confortablement votre travail, mais est-ce que vous diriez que la cour d'honneur contraint ou le favorise, ce travail?
Mais écoutez, je ne serais jamais allé dans la cour d'honneur si on ne m'avait pas violé. Donc c'était la deuxième fois des circonstances qui ont fait que... De toute façon, je crois dans ce destin. Parce que parfois, on aimerait bien choisir le lieu. Et cette fois-ci, c'était comme ça. Et au milieu de la production, on a essayé de se faire croire qu'on est capable.
Avec ce projet, Elisabeth Costello est un personnage de fiction créé donc par Coetzee, mais ce n'est pas la première fois que vous l'invitez dans votre théâtre, ce personnage. Qui est cette Elisabeth Costello et pourquoi elle vous hante et vous fascine autant?
Il y a beaucoup de raisons.
Vous nous en diriez quelques-unes?
Par exemple, je me suis toujours demandé pourquoi Coetzee avait besoin de ce personnage fictif dans un livre où il n'y a que des vrais personnages. Donc, elle, dans son tour du monde, participant en conférences sur la littérature, sur le mal, sur les animaux, sur... plein de choses les plus essentielles. Justement entourée par ce monde que Coetzee crée comme mystification d'un vrai monde où elle est un vrai personnage. Et en même temps, on sait très bien que ce n'est pas un vrai personnage. Disons que dans la vie de Coetzee, Elisabeth Costello, d'après ce qu'il dit, elle commence à le hanter. Elle ne peut rien faire contre elle. Elle fait intrusion dans ses nouveaux projets où il arrête de contrôler sa présence. Donc justement, la question se pose, pourquoi il en avait besoin de ce personnage fictif, tellement controverse. Tout ce qu'elle dit paraît dérapé. Elle a un certain âge. Elle n'est pas conséquente. Elle est pas. Elle est pleine de contradictions. En fait, elle dit des choses que peut-être Coetzee aurait peur de le dire en tant que lui. En fait, tout ça vient, et j'adore justement la construction de ce livre, parce que c'était prévu comme d'abord deux conférences auxquelles il a été invité aux États-Unis. Et le contenu de ces conférences était, elle, invitée aux universités américaines pour donner des conférences. Et notamment la fameuse conférence sur l'abattage des animaux qu'elle compare à l'Holocauste des Juifs. Oui.
Vous cachez peut-être derrière la figure de Coetzee pour répondre à la question, mais on va y revenir. Vous l'avez, en tout cas, vous utilisez ce personnage comme des apparitions dans La Faim et dans Apollonia. Justement, dans Apollonia, elle se faisait remarquer en comparant la violence perpétrée sur les animaux par les abattoirs et l'extension des Juifs dans les camps de concentration nazis. Alors que là, elle est le personnage principal de l'œuvre. Vous lui consacrez 4 heures de spectacle. Comment mettre en scène un tel personnage ? J'imagine qu'avec vous, il ne faudrait pas s'arrêter à la narration.
Mais c'est justement parce que ce personnage développe au fur et à mesure. Donc, sur des années, à partir de 1999 jusqu'à aujourd'hui, donc 25 ans, que Coetzee développe ce personnage qu'on pensait enfermé déjà dans cette première édition de livre intitulée Elisabeth Costello, tandis qu'après sont venues des nouvelles, Abattoir de verre. Et justement, ce qui était intéressant, c'est que la dernière scène d'Elisabeth Costello, où elle se trouve à la porte, donc une métaphore de passer au-delà, donc une métaphore très influencée par Kafka. Je dirais que l'art, la littérature, ose ce que la philosophie, la théologie, la religion ou autre chose ne peuvent pas nous répondre. Donc on voit cet auteur âgé devant une sorte de tribunal qui lui demande une déclaration de foi. Et elle, en tant qu'écrivaine, elle dit qu'elle, justement, elle a pas de foi, et ce serait pas professionnel pour une auteure d'avoir... elle dit, j'ai des opinions, mais j'y crois pas. Donc, une grande mystification d'une femme qui n'existe pas, mais qui nous trouble. Et en plus, il y a cette deuxième partie, ce qu'il a écrit beaucoup plus tard, où elle arrive aussi dans le roman L'homme au ralenti, où ce qui était propre dans cette métaphore devant la porte devient vieillissement. Donc ça, c'est vraiment troublant, ce vieillissement d'une vieille auteure comme Elisabeth Costello, qui a eu tous les prix de meilleur écrivain dans le passé. Et on la voit cette fois-ci dans un contexte complètement différent, entourée par la famille qui veut bien prendre soin d'elle, et où elle commence sa dernière lutte pour rester indépendante, rester elle-même. Et surtout, avec toute la dégradation qui a lieu, et du corps et du cerveau, elle résiste quand le monde entier, dans son chemin qu'elle a pris un moment de sa vie et qu'elle continue jusqu'au bout.
Je vais vous faire entendre une petite capsule.
Sans le savoir, vous venez d'assister à la disparition d'une muse moderne. Mais qui est-elle ? Cette jeune fille s'appelle Anne Lee. C'est un personnage créé par la firme japonaise Quirks, mais acheté par deux artistes français, Pierre Huyghe et Philippe Parreno. Et ce soir-là, sur la plage, les spectateurs viennent d'assister à la fin d'Anne Lee. Une courte vie virtuelle qui aura duré 3 ans, pendant lesquelles une vingtaine d'artistes lui auront construit de multiples existences à travers différents récits et différents médiums. Un jeu sur le réel et l'imaginaire, sur la notion de la propriété artistique et l'image. Mais comment peut-on réellement faire disparaître un personnage qui n'existe pas ? Ça a commencé comme ça.
My name is Anne Lee. Anne Lee. You can spell it however you want. It doesn't matter. No, it does not.
Cette jeune fille qui vous parle est une adolescente aux cheveux violets et aux yeux vides, tirés en amande, surdimensionnée. Elle naît officiellement en 1999, lorsque Pierre Huyghe et Philippe Parreno l'achètent pour un peu plus de $400 à une entreprise japonaise de création de personnages de fiction. Elle n'a pas de biographie, pas de super-pouvoir, pas d'attributs, pas de traits distinctifs. Disons que c'est l'entrée de gamme, un personnage lambda dans l'industrie du film d'animation, qui fait naître chaque jour des centaines de figures similaires.
Un extrait du podcast autour du personnage de fiction Anne Lee, présent dans l'œuvre de Philippe Parreno, Anywhere Out of the World, une vidéo où Anne Lee raconte son histoire et interroge sa condition fictionnelle et le caractère factice de son existence. Et c'est un personnage que vous mobilisez aussi tout au début de votre pièce. Pourquoi ? Est-ce que c'est une manière d'avertir le public que le théâtre reste une fiction et que le personnage est une construction inventée ?
Non, ça a plutôt à voir avec mes dernières approches au théâtre et à ce que ça devrait être le matériel que je partage avec le public. Donc, je travaille avec des écrivains comme Hannah Krall. Ses personnages sont de vrais personnages, les journalistes au départ. Mais après, il y a un côté fictionnel aussi de ces personnages. Ce n'est pas exactement le personnage à qui arrive toute... Elle est une sorte d'archive des histoires de l'Holocauste. Elle-même juive, un auteur très connu en France aussi. Donc, ce n'est pas qu'il y a John Maxwell Coetzee et tout d'un coup, il y a Elisabeth Costello. Il y a mon cheminement vers les personnages. Le dernier, c'était en général Ulysse. Et c'était aussi un vrai personnage à côté qui concrétisait cette idée, cette mythe d'Ulysse. C'était le personnage d'une juive polonaise qui a sauvé son mari pendant la guerre. La question des personnages, c'est une grande question, c'est-à-dire fictif ou vrai. Donc ça vient directement d'Ulysse, même s'il y avait certaines scènes qui étaient basées sur John Maxwell Coetzee avant. Voilà.
En tout cas, j'ai lu quelque part que raconter des histoires ne vous intéressait plus, vous n'y trouvez plus de sens, comme une crise de fiction ou une crise de croyance. Comment vous avez retrouvé le sens alors dans ce projet, ou quelle liberté ce personnage d'Elisabeth Costello a permis de prendre ou de retrouver ?
Moi, je dirais, je ne suis pas un faiseur de théâtre. Donc, j'en fais pas énormément. Et je crois que ça me vient avec de plus en plus de peine. Pas parce que je ne le veuille pas, c'est parce que je ne suis pas capable. Où je me pose la question sur mes possibilités. Et puis il y a mon ensemble à Varsovie, avec lequel j'entreprends des projets qui sont possibles avec eux, puisqu'on travaille ensemble depuis, avec certains, plus de 20 ans, avec recrutation des jeunes comédiens aussi, pour mélanger. Et cet ensemble me pèse et m'inspire. C'est-à-dire, s'il n'y avait pas cet ensemble, peut-être j'aurais pu échapper au théâtre, mais puisqu'il y a cet ensemble, ils me mettent debout. Peut-être de la même manière que le texte de John Maxwell Ketsy, Elisabeth Costello, j'ai remarqué que dans ma vie, quand il y avait des moments vraiment de cesser de croire des choses importantes, lui, il me remettait debout. Son langage tellement critique, sa logique d'enfer tellement exigeante, refus des compromis. Il y a quelque chose, et notamment, par exemple, ça m'a permis aussi de voir, par exemple, avec cet ensemble, une possibilité de mettre en scène Marcel Proust. Donc, vous voyez, je ne perds pas mon temps, je me confronte au maître.
Ce sont des maîtres pour vous. Proust, c'est un maître, vous diriez ?
Je dirais Shakespeare, il est plus maître. Proust, c'est un frère plutôt. Je sais pas. Puisqu'on en prend ce qu'on
au micro, veut. Si vous voulez bien.
Comment ?
Au micro, si vous voulez.
Oui, ce sont des mondes différents. J'aime bien aussi d'atterrir dans l'actualité. L'actualité politique plutôt de John Maxwell Ketsy.
Merci beaucoup Christophe Warlikowski d'avoir été avec nous après une nuit de travail dans la cour d'honneur. Elisabeth Costello, Sat Leçon et 50 Moreau jusqu'au 21 juillet à la cour d'honneur. Merci aussi à vous d'avoir été si nombreux et nombreuses ce matin. Et bon, suite de festival, la dernière matinale aura lieu jeudi. Merci.